Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, naturellement c'est votre rendez-vous hein. Hebdomadaire sportif sur Mon Paris FM, 19h, 20h30, alors on aura la partie foot à partir de 20h hein, pour revenir un petit peu sur les temps forts de cette semaine de foot, et puis comme la tradition le veut, en première partie, on va aujourd'hui découvrir un petit peu des sports insolites de l'intérieur. On va commencer ce soir avec le catch que je suis ravi d'accueillir. Et oui, on peut faire du catch dans la région parisienne. Alors, on va saluer donc Salem qui est avec nous. Bonsoir Salem.
Bonsoir, bonsoir, ouais. Merci beaucoup d'inviter.
Vous êtes venu en voisin de Nanterre, hein, c'est votre club de
exactement,
catch.
Exactement, hein. Le voilà. Club de catch de l'APC, l'association des professionnels du catch qui se trouve à Nanterre.
Très bien. Alors, on va découvrir d'un peu mieux donc, votre sport de son intérieur. Et puis, vous êtes accompagné de Sabrine. Bonsoir Sabrine.
Bonsoir, bonsoir Mon Paris FM du coup.
Voilà. Alors, catcheuse, et vous êtes aussi la speaker, c'est ça hein,
je ne suis pas encore catcheuse, non. Je m'entraîne pour être catcheuse. Du coup, fait 2 ans maintenant que c'est genre sur ma 3e année à l'APC. Par contre, oui, du coup, je suis annonceuse, pendant les shows. Voilà. Auparavant, j'ai fait un peu de journalisme de catch, du coup.
Ah bon
et, mais oui,
ah bah du tiens, coup, voilà. Vous nous en parlerez.
Avec plaisir.
Un peu de journaliste spécialisé dans le catch. Bah oui, pourquoi pas.
Et, oui.
Et puis, je vais saluer celui qui est là tous les deuxièmes, donc lundi du mois. C'est donc notre ami Benoît. Il nous parle MMA. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir tout le monde.
Ouais. Tu tombes bien, hein. On va parler catch.
On va dire que je tombe super bien. Je suis assez content en tant que grand fan de catch quand j'étais petit.
Ah, fan de catch.
Super. Et c'est très bien. À fond, ouais.
Et puis, je salue Laura pour son journal des sports. Bonsoir, Laura.
Bonsoir, Philippe.
Ça va? T'as passé une belle semaine?
Ouais, super bien.
La natation, ça a bien marché hein, pour les Français.
Ouais, ça a bien
Français,
marché. Hein. Ouais.
Voilà. On va donc en parler au cours de cette émission. Alors, d'abord, présentez-vous un peu. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a attiré vers le catch? Pourquoi le catch?
Bah, pourquoi le catch? Parce que bon, alors déjà, moi j'ai une très très grosse appétence pour le théâtre. J'adore le théâtre et j'ai aussi une nature plutôt sportive. Mmh. Et je cherchais vraiment une discipline qui pouvait mêler les deux, aussi bien donc le sport que
et
la dimension théâtrale. Exactement. Et en fait,
ouais.
Vraiment, on présente le sport du catch, non pas comme un sport, mais comme un sport spectacle. Oui. Donc on a vraiment les deux dimensions et donc vraiment c'était le sport qui pouvait m'intéresser parce que déjà, bon, quand j'étais au collège, j'ai touché à pas mal de sports, j'ai touché à la danse, j'ai touché au badminton et en même temps, je fais toujours en parallèle un peu de théâtre parce que j'aimais ça. Mmh. Donc finalement, le catch, c'est vraiment ce qui me paraissait lié sport et spectacle.
Depuis combien de temps?
8 ans maintenant.
8 ans,
ouais.
D'accord, ok.
8 ans.
Et donc toujours sur le club de Nanterre. Hein.
Alors sur le club de Nanterre, mais après donc l'avantage d'un sport comme le catch, c'est que c'est un sport qui nous permet quand même de pas mal voyager. Mmh. Donc c'est un petit peu comme le foot, c'est qu'on a l'occasion d'aller performer un peu ailleurs. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'endroits en France, j'ai déjà été en Bretagne. J'ai déjà catché dans le nord de la France également, dans le sud, auprès de, du coin de Nice. Je suis déjà aussi sorti de l'Hexagone, donc j'ai catché également en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Angleterre, au Portugal. Également
on parlera comment on est accueilli dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de ferveur, beaucoup de passion, beaucoup de suspense
Non, mais c'est, en fait, c'est intéressant parce qu'on se retrouve un peu... en fait, on a toujours une sorte de vocabulaire international, un vocabulaire catch qui fonctionne dans n'importe quel pays quoi. Donc c'est intéressant de se dire que on se retrouve pour la même chose finalement et quel que soit le changement de culture, bah, finalement on retrouve le catch, on retrouve ces mêmes codes qu'on retrouve en France, qu'on retrouve en Angleterre et qu'on retrouve partout.
Très bien. Sabrine, qu'est-ce qui a amené une jeune fille comme vous vers ce sport et ce spectacle?
Déjà le truc d'être une jeune fille, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a une grande place pour les femmes dans le catch. Et moi, c'était ce qui m'avait attirée étant plus jeune, justement. J'ai découvert le catch à travers les jeux vidéo, donc c'est un peu étonnant, mais c'était mon cousin qui jouait à SmackDown versus Raw à l'époque et qui m'avait montré ça. Et du coup, au final, il m'avait dit, mais tu sais, les gens que tu vois dans ce jeu, bah ils existent vraiment. Et du coup, je me suis retrouvée devant NT1, je me rappelle, à regarder du catch avec lui. Et ce qui m'avait le plus marqué, bon, c'était évidemment les catcheurs grandeur nature. Benoît, tu dois te rappeler de Jeff Hardy, Rey Mysterio,
ah,
tout
clairement,
ça.
Clairement.
Mais par contre, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était les catcheuses. Parce que du coup, je ne m'attendais pas forcément à en voir. Et c'est vrai que je me suis tout de suite sentie attirée par ces femmes-là. Parce que non seulement elles étaient fortes, violentes, etc. Mais il y avait aussi ce côté très féminin qui, moi, m'avait attirée. Parce que je les trouvais super, je les trouvais magnifiques.
Ouais.
Et je trouvais qu'elle représentait une vision de la femme que je voulais être, en fait. Je voulais être cette femme qui était jolie, mais qui aussi était un peu plus que ça. Et puis surtout, je me disais, c'est... Enfin, je trouvais ça très... Enfin, de mon œil très jeune, je trouvais ça très féministe, en fait, de voir ça. Et du coup, bah, j'ai été attirée par le catch comme ça. Et c'est surtout, ouais, c'est surtout le catch féminin qui m'a donné envie de faire du catch, parce que j'avais envie d'être comme ça.
Donc, ça fait combien de temps?
Alors moi, j'ai commencé à m'entraîner. Alors ça fait des années que je suis fan de catch. Je suis fan depuis peut-être 2007, je pense.
Ah oui, quand même. Ça fait une quinzaine d'années.
Oui, c'est ça. Ça fait très longtemps. Et du coup, j'ai commencé les entraînements en 2019. En fait, j'étais au Mexique en échange universitaire. Et du coup, quand j'ai fait mon stage dans la ville de Guadalajara, je savais qu'il y avait une arena à côté de là où j'étais. Enfin, je savais qu'il y avait une arena, du coup. J'y suis allée, je me suis dit, moi, pourquoi pas essayer, faire mes premiers entraînements de catch. Donc, je suis allée dans l'école du CMLL, qui est une des plus grosses promotions, entreprises de catch dans le monde, qui existe depuis, si je ne dis pas de bêtises, plus de 70 ans, je pense. Et donc, c'est une institution véritablement là-bas, etc. Et donc, je me suis entraînée auprès de El Satanico, qui est un catcheur qui a aujourd'hui 72 ans, je crois, et qui catche encore.
Oh là là.
Donc, voilà, donc c'était une très belle expérience. Et puis après ça, je suis revenue en France. Et là, j'avais vraiment envie de m'entraîner à l'APC parce que pour moi, c'était le meilleur club de catch qui existait en France.
Après, il faut pouvoir trouver un club. Et justement, il y a eu ce club. Il n'y en a pas énormément, quand même, sur Paris et sur l'Île-de-France, des clubs de catch.
Non,
vous avez eu une chance énorme, finalement, de trouver quelque chose pas très loin, quoi.
Alors, mon cas est spécifique parce que justement. J'irai même plus loin, il n'y en a pas beaucoup en France.
Eh oui.
Et puis, il n'y en a pas beaucoup de qualité en France. Et moi, je viens de Nantes. Je ne suis pas du tout de région parisienne. Et en fait, j'avais vraiment envie de m'entraîner dans l'école qui, selon moi, était la plus formatrice. Mmh. Et du coup, j'ai emménagé en région parisienne pour faire un master et puis à côté pour pouvoir m'entraîner dans la ville de Nanterre. Donc oui, je suis très heureuse d'être là parce que je sais que c'est une formation très qualitative avec d'excellents coachs qui ont été formés un peu partout dans le monde aussi. Et donc, vraiment, je suis très contente d'y être.
Alors, Salem, présentez-nous un peu ce club. Il existe depuis très longtemps.
Alors, je pense qu'il existe depuis tellement longtemps que je ne saurais pas dire l'époque exacte de l'ouverture du club. Oui. Mais alors, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il me semble bien que c'est un club qui a ouvert ses portes avec la mode du catch. Donc il y a eu une grosse mode du catch en France qu'on va compter, allez, peut-être 2007, 2008, 2009.
Oui, les fameuses retransmissions sur...
Voilà, exactement. Sur,
mais vous savez que nous, on est d'une génération où le catch était un sport très important, qui était souvent transmis le soir à la télé, et avec des grands commentateurs sportifs, dont Michel Drucker à l'époque, mais aussi Thierry Roland puis Roger Coudert, qui ont commenté le catch. À l'époque, c'était parmi les meilleures retransmissions télévisées.
Évidemment. Et donc oui, on a eu justement un retour en France, en force, vers 2007, 2008, 2009. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que l'école de l'APC a ouvert ses portes. Mmh. Et donc moi, j'ai eu l'occasion de rejoindre l'école de l'APC en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Donc à ce moment-là, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans et donc voilà, c'est une école de qualité, donc c'est une école qui, pour certains, est considérée comme la meilleure école de France. Mm-hmm. Donc c'est quand même une sacrée valeur ajoutée. Et c'est, en plus de son école, c'est une structure qui a l'opportunité de faire des shows régulièrement dans l'année, en Ile-de-France et ailleurs.
Mm-hmm. Alors, vous êtes combien à ce jour là, dans cette école?
Alors, d'adhérents ou de coachs?
D'abord, d'adhérents.
D'adhérents. Alors, cette année, je pense qu'on peut compter une cinquantaine d'adhérents, cette année.
Mixité, autant de filles que de garçons, non?
Malheureusement, je dirais, on a 90% de garçons et 10% de filles, sur les 50, je dirais ça. Et donc voilà, on a aussi une belle diversité de coachs, donc on a 5 à 6 coachs.
Est-ce qu'il faut des diplômes pour être coach ou est-ce qu'on peut s'improviser coach? Ou est-ce qu'il faut passer certains brevets, comme ça se fait pour être coach en foot, en tennis, en...
Alors, c'est malheureusement pas des diplômes à proprement parler, mais il faut bien sûr...
Il n'y a pas de brevets fédéraux, quoi.
Alors, dans l'idée, il faut quand même attester d'une certaine expérience. Donc, il faut attester d'un certain nombre de matchs, il faut être validé par l'école, justement. Il faut que l'école puisse nous trouver légitime. légitime à pouvoir coacher et à pouvoir tenir un groupe de jeunes, ce qui n'est vraiment pas facile. Ouais. Donc voilà, et en plus le catch est quand même un sport assez périlleux, assez dangereux, donc voilà, il faut quand même avoir des personnes relativement qualifiées pour ça. Donc nous, on ne s'improvise pas coach parce que finalement il faut une certaine expérience, il faut des années d'entraînement, etc. Mais derrière, effectivement, on a rien qui est réellement officiel, donc un diplôme ou un brevet ou autre, mais on atteste bien une expérience et on est bien validé par les anciens coachs. Ouais. Qui valide les nouveaux et qui valide ensuite, et ainsi de suite.
Ouais, si je peux me permettre aussi rebondir sur les propos de Salem, c'est qu'en fait, malheureusement, en France, le catch n'est pas reconnu comme un sport. Alors, il est reconnu par le ministère de la Culture.
Il n'y a pas une fédération française ?
Non. Ah oui, il n'y a pas de
c'est
fédération.
C'est une question que j'allais poser.
Non, il n'y a pas de fédération française de catch, malheureusement. Comme ça dépend du ministère de la Culture, un catcheur est considéré comme intermittent du spectacle.
C'est-à-dire que bon, quand on rentre du catch, on ne prend pas de licence. Comment ça se passe
pour... C'est ça, en fait. C'est pour ça que, du coup, moi, j'ai rejoint l'APC. C'est qu'en fait, comme il n'y a pas de... Et puis, c'est le cas partout dans le monde, sauf au Mexique. Au Mexique, oui, il y a une licence de catcheur, parce qu'on peut être luchador professionnel, etc. C'est le seul pays, vraiment, qui va reconnaître le catch de manière sportive et même en termes de métier, parce qu'on ne peut catcher dans des gros shows qu'avec une licence de luchador. En Europe, c'est plus compliqué, et du coup, la validation, on l'a par la renommée. Donc, à l'APC, par exemple, nos coachs, ils ont une renommée parce qu'ils ont catché dans des grosses structures européennes, mondiales. Salem pourra en témoigner après. Et en fait, c'est ça qui fait que la légitimité des coachs, c'est qu'on sait qu'ils sont capables de catcher dans des structures professionnelles, internationales. Et du coup, c'est comme ça que moi, c'est pour ça que j'ai aussi voulu rejoindre l'APC, c'est que je sais qu'ils font attention à ça, ils font attention à cette renommée, à cette réputation que peuvent avoir les différents catcheurs. Et puis, du coup, de fil en aiguille, hein, effectivement, quand on est formé par les meilleurs, ben on devient meilleur, et ainsi de suite, ça s'enchaîne sur des générations, quoi.
Et c'est quoi la tranche d'âge actuellement dans votre club ? Le plus jeune, la plus jeune, ou c'est combien ?
Alors, déjà en France, on évite de permettre à des personnes de moins de 14 ans de s'entraîner.
D'accord, donc on ne peut pas le pratiquer, ce sport, avant 14 ans.
C'est dans l'idée. Alors, je précise bien que c'est en France, parce que ce n'est pas dans tous les pays. Donc, je sais que j'avais eu l'occasion de faire un voyage en Hongrie, où vraiment des très très jeunes avaient l'occasion de s'entraîner. Également en Allemagne, il y avait des classes enfants. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on pratique en France. En France, c'est vraiment à partir de 14 ans, on considère que voilà, il y a toutes ces questions de croissance, il y a toutes ces questions.
C'est pas logique.
Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Donc voilà, donc 14 ans. Et après, bah, il n'y a pas de maximum.
70 ans, on peut encore catcher.
Il
hein.
n'y bah, a pas de maximum, ouais. On a déjà eu des pères de famille. On a déjà eu. Ouais. Bah, ne serait-ce que pour avoir envie de se remettre en forme, se challenger un petit peu. Et non, il n'y a absolument aucun souci. Il n'y a pas de limite.
Alors. Si certains ou certaines sont intéressés en écoutant cette émission, ils peuvent encore venir vous rejoindre. Ça coûte combien ?
C'est une licence à l'année. Donc pour le prix, Sabrine, est-ce que tu...
Pour ne pas dire de bêtises, je crois que c'est 250, 240.
À l'année,
ouais. Ouais, à l'année.
Et comment ils font ? Ils viennent vous voir ou Internet et où...
Alors bon, déjà, il peut y avoir des réservations par Internet, bien sûr, donc apccatch.fr. Et également, donc, la séance d'essai est possible. Voilà.
C'est ce que j'allais dire. Il y a des possibilités d'essai. Donc si Benoît veut venir, il y va.
Absolument. Mais Benoît, t'es le bienvenu.
Je suis peut-être un peu trop maigre, mais ça me
On va en parler de ça.
Alors, donc oui, effectivement, la séance d'essai est possible. Et derrière, donc on distribue tout ce qui est formulaire d'inscription. Donc il faudra bien sûr un certificat médical. Voilà. Donc ensuite, suivi du règlement et voilà.
Parce que quand on est jeune et qu'on dit à ses parents, je veux aller faire du catch. Quelle est la réaction des parents?
Ah, bah, je suis passé par là. Ma mère ne voulait pas. Elle a trouvé ça trop dangereux. Donc en fait, je les ai saoulés depuis mes 14 ans, parce que je savais que c'était à partir de 14 ans. Donc j'ai commencé à les saouler à partir de 14 ans. Et à partir de 17 ans, ils ont craqué. Et donc j'ai été faire ma première séance d'essai. Et ils m'ont dit, bon, bah, si tu le sens, tu le sens. C'est parti. Et donc voilà, à 17 ans, c'est mes parents qui me payaient ma licence.
Et Sabrine, pareil, non? Il y a eu une réticence des parents.
Encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué.
Tant pis, je quitte Nantes, j'y vais.
Bah, moi, encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est vrai que déjà, moi, j'ai une histoire un peu particulière. C'est que de base, je ne suis pas du tout sportive. Donc, moi, quand j'étais jeune, le sport, c'était catastrophique. J'ai fait du volley pendant 4 ans. Je peux vous assurer que pendant 4 ans, je n'ai pas attrapé un ballon. Et du coup, et puis même le PS, c'était un cauchemar pour moi. Et en fait, bah du coup j'ai toujours aimé le catch, j'ai toujours adoré ça et je me suis dit ben j'ai quand même envie de travailler dans le catch, donc c'est pour ça que j'ai essayé de me former pour être membre du catch, soit pour faire du journalisme, donc j'ai fait du journalisme de catch, on peut en parler plus tard si vous voulez, mais du coup j'ai essayé de faire un maximum de choses en lien avec le catch parce que je ne pensais pas être capable de monter sur un ring. Et puis vraiment c'est une fois arrivée au Mexique que je me suis dit bon ça ne coûte rien d'essayer, à vrai dire. Je me suis dit qui ne tente rien n'a rien, et puis si j'essaye et que j'y arrive pas, tant pis, au moins j'aurais essayé. Et puis effectivement alors c'est dur, c'est très dur, c'est pas quelque chose qui s'apprend en claquant des doigts. Encore aujourd'hui j'apprends petit à petit, mais par contre je me suis rendu compte que oui, en fait avec de l'assiduité, avec du travail, avec de la persévérance, on voit des progrès, on avance. Et moi aujourd'hui je me retrouve à faire des choses sur un ring aux entraînements que jamais de la vie j'aurais pensé pouvoir faire, et c'est très gratifiant. Et effectivement mes parents ne s'attendaient pas à ça, parce que moi j'étais un peu l'intellectuel de la famille, du coup me retrouver et leur dire bah je fais du catch maintenant, c'était un peu un choc pour eux, parce qu'ils se disaient c'est pas ce à quoi on t'attendait, on n'attendait pas à te voir là-dedans. Mais bon, mon père est récemment venu voir un show de catch que j'ai annoncé en juillet, et c'est vrai qu'il a été relativement surpris par déjà par le niveau, mais aussi par le côté famille qu'il y avait dans le club et l'environnement dans lequel j'évoluais. Et il s'est rendu compte que ben, finalement c'était pas si dangereux que ça, et qu'il comprenait un peu pourquoi j'avais cette appétence pour le truc. Du coup ça fait plaisir, voilà.
Oui, parce que bon, quand on commence ce sport, on monte sur le ring, ça se passe comment un entraînement? Il y a un entraînement très physique, faut être très souple, faut être très physique, faut apprendre à tomber, comment ça se passe?
Alors effectivement, donc si je prends vraiment l'exemple de mes entraînements, donc ça commence avec une grosse séquence d'articulaire. Donc c'est une séquence d'articulaire que depuis cette année je traite avec un kiné. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, au niveau de tout ce qui est donc articulation, les os, etc. Donc le kiné est quand même bien informé. Donc il est là, il encadre. Ouais. Voilà, exactement. Donc il encadre. Et donc après, on a vraiment un échauffement qu'on appellerait cardio, hein, du coup, qui relève vraiment de la condition physique, de l'effort physique, de manière à vraiment chauffer le muscle et le corps, parce que vraiment prendre une chute dans ces conditions,
ça peut avoir des points communs avec la préparation pour le MMA la préparation physique, le cardio c'est à peu près le même, hein.
Ouais, mais je pense vraiment que la condition physique qu'on fait au catch n'est pas différente de celle qu'on retrouve au MMA, au foot, au basket ou n'importe où ailleurs.
C'est exactement ce que j'allais me poser comme question, au niveau des entraînements. Puisqu'au final, vu que votre pratique elle est tellement, j'ai envie de dire, hybride, parce qu'il y a à la fois des prises, mais à la fois beaucoup d'acrobatie, etc. Mmh. C'est quoi la... comment dire? Est-ce qu'il y a une base quand même que chaque artiste doit avoir au début pour pratiquer? Ou en fait, comment elle évolue vraiment la pratique du sport?
Alors, ce qui est vraiment super intéressant dans le catch, c'est qu'on a des profils extrêmement différents. Et finalement, quoi que tu travailles à côté du catch, c'est une manière de forger ton identité de catcheur. Donc si tu fais du parcours, ça va t'aider. Si tu fais de la lutte, ça va t'aider. Si tu fais du judo, ça va t'aider. Si tu fais de la musculation, ça va t'aider. N'importe quoi peut t'aider dans le catch, parce que c'est tellement pluridisciplinaire que finalement tout peut être un atout dans le catch. Et donc finalement, à chaque fois qu'on accueille des nouveaux élèves, on leur demande leur paix sportive et ils nous demandent, ils nous disent voilà, par exemple moi j'ai fait du foot, on dit très bien pour le catch. J'ai fait de la lutte, très bien pour le catch. Donc finalement tout est bon à prendre.
Et vous en avez beaucoup qui viennent de d'autres arts martiaux par exemple?
En général tout le monde vient.
On a exemple d'une célébrité qui était un grand comédien, qui était Lino Ventura, qui venait de la lutte et qui a fini par le catch, hein.
Bien sûr,
avant d'être comédien, hein.
En général tout le monde a un passé sportif, et quand bien même ce soit pas un passé sportif, que quelqu'un me dise voilà, j'ai fait du théâtre avant, c'est excellent pour le catch.
Oui, le théâtre aussi.
C'est excellent.
Moi j'ai fait du théâtre avant et Salem aussi en a fait, du coup, et c'est un moyen, en fait c'est comme le catch, c'est du sport et du spectacle, c'est un moyen de savoir transmettre les émotions, etc. Et donc oui, il y a chaque passé artistique ou sportif peut servir au catch, absolument.
Et il n'y a pas besoin d'être grand, gros, faire 1m90, 90 kg, 50 kg. Est-ce qu'il y a un profil type?
Ça, c'est une très belle question, parce que finalement, il y a... alors, tu parlais du catch des années 80 au-delà.
L'ange blanc, le bureau de Béthune.
Voilà, le bureau de Béthune, Ben Chimoul également, on s'en souvient. Mais justement, en fait, c'était une époque où il fallait vraiment 1m80 minimum, 100 kilos. Et c'était vraiment une période où tous les catcheurs étaient quasiment tous les mêmes. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de très inclusif, avec une très grosse diversité. Et aujourd'hui, tout le monde a un peu sa chance. Donc on peut être très petit, il y a des choses à faire. On peut être très grand, il y a des choses à faire. On peut être très musclé, il y a des choses à faire. On peut être gros, il y a des choses à faire. Il y a tout le temps des choses à faire. Donc c'est aujourd'hui on est sur une période un peu différente du catch où vraiment tout le monde a une chance. Donc c'est d'autant plus profitable et ça peut permettre de montrer encore plus de choses au public, beaucoup de diversité, beaucoup de choses, etc.
Mais faut au moins s'entraîner combien, 3 fois par semaine, parce que en préparant l'émission j'ai regardé vos différents créneaux, il y a des séances tous les soirs. Hein.
Quasiment. Ouais, l'APC propose 4 séances par semaine. 4 sur 5. Donc, c'est des séances de 3 heures. C'est quand même assez long par rapport à ce qui se fait ailleurs. En général, ailleurs, c'est 2 heures. Là, on est sur 3 heures à l'APC. Donc, ça peut permettre de vraiment voir pas mal d'entraînement, pas mal de coach, pas mal de manières de faire. Et derrière, moi, je me limite pas aux 4. Je fais 5 séances par semaine.
Vous êtes plusieurs sur le ring. Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs rings. Il y a des travaux collectifs.
À l'APC, on a quand même beaucoup de matériel. On a un ring, on a des trampolines, on a des tapis de gym.
Donc, chacun peut travailler ça.
Absolument. Voilà. On a des pushing balls. On a vraiment énormément de choses. On a des medicine balls. Donc, vraiment, on a vraiment de quoi faire. Donc c'est pas mal. Donc si on veut travailler sur la lutte, on peut. On veut travailler sur la voltige, on a les cordes. On peut tout le temps faire quelque chose. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant à ce niveau-là, la PC.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Est-ce qu'on se blesse beaucoup au catch? Et est-ce qu'on se blesse de façon très dangereuse?
Oui. Oui. La réponse est oui. Il peut y avoir des blessures légères, donc qui sont des petites gênes, mais il peut y avoir des ligaments croisés qui prennent 6 mois ou 1 an dans l'année, quoi.
Et il y a beaucoup de blessures à la nuque aussi. Il y a beaucoup de catcheurs et catcheuses qui se sont blessés à la nuque. Alors, des fois, c'est sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a des catcheurs et catcheuses qui vont avoir des prises qui sollicitent beaucoup leur cou ou leur colonne vertébrale et qui, du coup, au fur et à mesure, vont se développer des hernies au niveau de la colonne, etc. Donc, il y a des grands catcheurs, hein, notamment Edge, que tu dois connaître sûrement, qui a dû arrêter. Après, la plupart ont repris. Donc ils ont attendu quelques années et puis sont revenus, donc c'est pas non plus une fatalité, mais c'est vrai que il faut faire attention à son corps, et ça moi j'aime beaucoup l'APC pour ça, parce qu'on nous apprend vraiment à faire attention à notre corps. On dit faut bien muscler votre corps, essayer de bien faire attention à votre nuque, etc., pour ne pas justement se lancer sur... En fait, il faut en avoir conscience et il faut travailler toutes ces zones là qui potentiellement peuvent causer problème à un moment donné. Mais oui, effectivement, surtout sur la longue durée, la pratique sur la longue durée, elle a forcément un impact sur le corps.
Oui, parce qu'on apprend à tomber dans votre sport quand même. Hein.
Oui,
absolument. C'est une des bases, une des particularités de vos entraînements. Quoi.
Absolument, c'est la base. Donc on a plusieurs variétés de chutes, et effectivement, c'est à partir de là qu'on peut vraiment commencer à travailler. Et donc le but, c'est que la douleur est présente, maintenant la blessure, on l'évite. C'est à partir du moment où on maîtrise vraiment les chutes, les mouvements, etc. Après, derrière, pour revenir sur ce que Sabrine disait, c'est qu'il faut aussi savoir se soigner. Donc faire de l'ostéopathe régulièrement, du kiné régulièrement. La musculation permet d'encaisser les chutes, les coups, etc. Donc voilà, il y a toujours des moyens de rester en sécurité, en fin de compte.
Oui. Et il y a depuis des plus doués que d'autres dès le début. Il y en a pour qui il faut s'entraîner un peu plus que d'autres.
Oui. Alors, après, je ne pense pas que ce soit une fatalité. On peut commencer en étant vraiment perdu et remonter la pente petit à petit. Pour certains, ça prend plus de temps que d'autres, mais j'ai envie de dire que c'est comme dans toutes les disciplines. Il y en a qui ont beaucoup de facilité et d'autres qui ont beaucoup plus de mal. Mais c'est la persévérance qui fait que...
Donc ça veut dire que c'est quand même un sport qui est accessible à tout le monde.
Ah oui.
Absolument.
Oui.
Bah, c'est ce que je disais. Moi, c'est mon cas. Par exemple, moi, j'ai mis... peut-être 5 mois avant d'apprendre à faire correctement une roulade avant. Donc moi, je reviens de très très loin. Et aujourd'hui, je suis capable de faire beaucoup plus de mouvements qu'avant, mais c'est normal, c'est une question de travail. Alors effectivement, on va avoir des gens qui arrivent et qui ont tout de suite la fibre sportive, entre guillemets, qui vont s'en sortir très 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 rapidement, parce que soit ils ont fait du sport auparavant, soit c'est facile pour eux. Pour d'autres, c'est plus compliqué, mais finalement, avec de l'entraînement et avec du travail, on s'en sort tous, oui.
Moi, j'aurais une petite question. À quoi on reconnaît un bon catcheur? C'est-à-dire, c'est quoi qui... À quel moment
le
on connaît
petit plus
les...
qui fait la différence,
ouais, voilà,
quoi,
le petit
c'est
plus
ça.
Qui ouais, font ouais. que voilà lui on peut dire ah ouais lui il est très très voilà. fort ou
c'est comme le joueur de foot qui est capable de faire basculer un match quoi voilà
c'est ça ouais, je me pose la question
ouais. Bah, Sabrine je te laisse répondre je pense qu'on n'est pas d'accord je vais te laisser commencer
mais en fait de toute façon j'allais dire c'est très subjectif en fait de base je saurais pas répondre à ta question moi personnellement parce que c'est très très subjectif en fait même toi qui a été fan de catch du coup tu peux en témoigner mais tu vois par exemple enfin je sais pas c'était qui ton catcheur préféré quand t'étais plus jeune
Tom Hardy
Jeff Hardy. Bah, tu vois, Jeff Hardy, c'est un voltigeur, c'est quelqu'un qui voltige énormément, qui a une personnalité un peu pleine de. Qui a un look très coloré, etc. Ouais. En face, t'as quelqu'un comme Undertaker, bon, c'est pas les mêmes, tu vois. Et pourtant, il y en a qui vont dire le meilleur, c'est Undertaker, et il y en a qui vont dire le meilleur, c'est Jeff Hardy. Et finalement, ils ont pas le même style de catch du tout, ils ont pas la même prestance, ils ont pas la même personnalité. Et pourtant, tu vois, c'est les catcheurs préférés de différentes personnes. Donc en fait, c'est ça, c'est que. Il y en a qui vont dire qu'un bon catcheur, c'est un catcheur qui sait transmettre des émotions. Il y en a qui vont dire qu'un bon catcheur, c'est un athlète incroyable. Il y en a qui vont dire qu'un bon catcheur, c'est un physique incroyable. Et finalement, bah, tu vois, moi, voilà, personnellement, mes catcheurs et catcheuses préférées, c'est souvent des personnalités grandeur nature qui, au-delà de leur style de catch, arrivent à transmettre des émotions, à transmettre des messages que d'autres ne font pas. Oui. Et moi, je vocalise du coup beaucoup plus sur cette partie-là, peut-être cette partie plus théâtrale du catch.
Oui. C'est-à-dire qu'il joue avec le public, quoi. D'où l'avantage du théâtre.
Après,
il faut
catcher...
monter un public en pression qui fait que, voilà...
Après, tous les catcheurs sont obligés de faire ça.
Oui, oui, bien sûr.
Tous les catcheurs
sont obligés de faire ça. Il y en a qui savent peut-être mieux que d'autres le faire.
Ouais.
Non ?
Effectivement.
Ouais. Bah, disons qu'il y en a qui concentrent plus leurs efforts sur ça, et d'autres beaucoup moins, et d'autres qui trouvent un équilibre. Après, moi, ce que je considérais d'un bon catcheur, ce serait un catcheur qui serait capable d'un peu tout faire. Vraiment, ce qu'on appelle, nous, un full package, c'est que finalement, quelqu'un qui aurait justement bah, déjà une belle tenue, un beau physique, qui catcherait bien, qui aurait une belle connexion avec le public, qui saurait transmettre des émotions, mais en même temps, qui ne ferait pas que ça, qui catcherait aussi. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment un tout.
Vous avez des modèles en particulier ? Enfin, ou un modèle ?
Moi, je vais être très direct avec toi. Pour moi, le meilleur catcheur du monde, c'est Chris Jericho.
Ah, ok.
Pour moi, il sait tout faire.
Ok. Voilà. Genre, moi, c'est pensé à lui.
Voilà. Donc, c'était mon catcheur préféré quand j'étais enfant. Mais quand j'étais enfant, j'aurais pas pu savoir l'expliquer. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il me transmettait autant de choses. C'est qu'il sait tout faire.
Mais c'est ça. C'est qu'avant, il avait une carrière au Mexique, par exemple, et il faisait de la lucha libre mexicaine. Donc, c'est un style très aérien, très voltigeur. À la WWE, du coup, c'était plus, il était plus dans la restriction, parce que du coup, son but, c'était plus d'être un showman. Et en fait, quand on connaît la carrière de Chris Jericho sur toute sa longévité, on sait que c'est quelqu'un qui est capable de tout faire et de toucher à tout. Et du coup, c'est d'autant plus impressionnant. Donc, ouais, moi, je rejoindrais aussi... ce que ça allait me dire.
Alors justement, est-ce qu'on peut vivre de ce sport quand on arrive à un tel niveau ? Est-ce qu'en France, on peut en vivre ? Et puis, est-ce que vous parliez du Mexique, mais est-ce que au Mexique ou dans certains autres pays, on peut vivre de cette activité ?
Alors, malheureusement, je ne dirais pas en France.
Oui.
Alors,
il n'y a aucun catcheur professionnel qui vive uniquement du catch ?
Il y en a une.
Oui.
C'est ML,
oui.
Qui est une ancienne catcheuse de la WWE. Du coup, c'est la première française à avoir signé à la WWE.
Ouais, alors, pour les non-initiés, on va dire ce que...
La WWE, c'est la plus grosse entreprise de catch dans le monde.
Voilà.
C'est l'équivalent de la FIFA pour le catch.
Voilà, c'est ça. Et puis, c'est ceux qui vont... Voilà, c'est les retransmissions télé, avec les droits télé,
exactement.
Les partenaires, les sponsors. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et c'est ça qui fait gagner de l'argent, quoi.
Bah oui, elle était là-bas. Et du coup, aujourd'hui, elle a une renommée qui fait que, même si elle n'est plus là-bas, elle catch... dans le catch indépendant en Europe et à travers le monde. Là, elle revient de Dubaï, par exemple, où du coup, bah, ça lui permet d'en vivre, mais c'est un cas spécifique.
Oui, bien sûr.
C'est parce qu'elle a eu le tremplin, etc.
Donc, il faut s'exporter.
C'est la première chose, il faut s'exporter. Mais après, je ne suis pas forcément d'accord. Il y en a plein qui vivent du catch en France, mais en fait, ils ne sont pas que catcheurs.
Oui,
ils sont aussi promoteurs de catch, ils organisent des événements, etc. Après, si on parle juste des catcheurs, c'est vrai qu'en France, c'est très très compliqué d'en vivre. Et évidemment, même si je parle de quelqu'un qui vit du catch en France, il s'exporte. Il s'exporte, il va en Allemagne, il va en Angleterre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Après, si on veut vraiment vivre du catch en France, je ciblerais 5 pays. Je dirais déjà le Japon. Le Japon, c'est on soupçonne pas, mais le catch, c'est très important.
On a parlé de sumo il y a quelques temps.
Ouais.
Hein,
cette émission.
Oui. Il y a le sumo, mais il n'y a pas que le sumo. Il y a le catch.
Il y a le catch. Je dirais le Mexique. Le Mexique également, hein, comme l'a dit Sabrine. Les États-Unis. Et je dirais l'Allemagne et l'Angleterre pour l'Europe.
D'accord.
Mais je ne citerai pas d'autres pays où on pourrait en vivre. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres.
Bah oui, c'est ça. Et puis c'est surtout qu'en fait, c'est, même au Mexique, même au Japon, etc., il y a les professionnels qui en vivent. Et puis même parmi les professionnels, moi je sais que par exemple, étant à Guadalajara, qui est du coup une ville en dessous de Mexico, la capitale, à Mexico, la capitale, ceux qui catchent à l'arena, la plupart sont... font que ça dans leur vie. À Guadalajara, c'est une ligue un peu mineure par rapport à celle de Mexico. Et du coup, il y a plein de catcheurs qui ne font pas que ça. Moi, je connais un catcheur qui est catcheur et vétérinaire, par exemple. Mm-hmm. Parce que voilà, ils n'ont pas encore atteint ce niveau qui leur permet d'être au plus haut du Mexique. Et en fait, donc même là, c'est compliqué.
Et puis en France, il manque peut-être des grosses réunions. Je crois qu'il y a l'Arena Bercy, non, qui en a fait du catch un peu, non, ou c'est prévu, non.
Ils accueillent la WWE.
Voilà, c'est ça. Mais il manque des grosses réunions pour pouvoir justement peut-être en vivre pour certains puis certaines, quoi.
Et puis je pense qu'on manque également de dates. On manque également de dates, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez de dates à l'année pour justement avoir une source de revenus qui serait stable.
Est-ce que ce ne serait pas aussi dû au fait que culturellement en France, on n'a pas trop cette attache avec le catch, contrairement à d'autres pays ?
Bah pourtant, on l'a eu à une période, mais c'est vrai que c'est tombé en fait, c'est retombé. Mmh. Et effectivement, culturellement, c'est vrai que la plupart des. Donc, déjà, quand on dit à nos proches ou à des personnes qu'on rencontre qu'on est catcheur, très souvent, c'est toujours la même réaction, c'est je ne savais pas qu'il y avait du catch en France. Donc en fait, on a comme une sorte, on a comme un manque d'exposition. Mmh. Donc c'est oui, effectivement, culturellement, c'est vrai que c'est moins impactant qu'au Mexique, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis ou en Angleterre.
Allez, la petite pause musicale, la première avec Florent Pagny, Savoir Aimer, puis on va reparler des coulisses des catch et notamment tiens les réunions que vous organisez dans votre salle à Nanterre, la salle Génie, c'est ça hein.
Exactement, le studio Génie à Nanterre.
Voilà, auparavant, 5 minutes de la défense. Florent Pagny, voilà.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus. Se voir y croire pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir. Silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver. Rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout. Apprendre à aimer, s'en aller.
Allez, deuxième partie donc de cette émission, hein, on va parler du journal des sports avec Laura. Auparavant, je voulais quand même, Laura, féliciter le monde du sport, hein, qui a donc réalisé plus de 89 millions d'euros de promesses de dons à l'occasion du Téléthon. On en parlait la semaine dernière et c'est encore possible de donner des dons jusqu'au 31 décembre. Voilà. Alors, pour revenir sur le week-end sportif, on s'est régalé, et notamment avec l'équipe de France de natation. C'est plutôt bon signe pour les Jeux, avec cette pléthore de médailles en au championnat d'Europe en petit bassin.
Oui, exactement. Ce dimanche 10 décembre à Bucarest en Roumanie, les Bleus ont remporté 7 médailles d'or et 23 récompenses au total. Ils terminent donc deuxième au tableau des médailles juste derrière la Grande-Bretagne. Mewen Tomac a obtenu la première médaille de la soirée en bronze lors du 200 mètres d'eau. Maxime Grousset remporte la médaille d'or sur le 1500 mètres. De son côté, David Aubry a décroché l'argent derrière l'Irlandais Daniel Whiffen. La dernière médaille a été obtenue lors du relais mixte 4x50 mètres, 4 nages. L'équipe de France, emmenée par Mewen Tomac, Florent Manodou, Beryl Gastaldo et Charlotte Bonnet, a décroché l'argent derrière une solide équipe italienne. Coupe du monde de ski, le géant de Val d'Isère est remporté par Marco Odermatt. Le meilleur skieur du monde conserve une seconde d'avance sur Marco Schwartz, qui arrive deuxième sur la troisième marche du podium. On retrouve Johan Verdu, une première pour l'histoire de son pays, qui est Andorre. Alexis Pinturo s'est approché de ce podium et finit à la cinquième place. Léo Hoguenot termine 21e, Victor Muffat Jandé 25e et Thibaut Favreau n'a pas rallié l'arrivée. Pour la Coupe du monde de féminine, c'est Michaela Schifrin qui s'impose lors de la descente Saint-Moritz samedi. C'est la quatrième fois de sa carrière que l'Américaine remporte une descente de Coupe du monde. En deuxième et troisième place, on retrouve les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia. Première française, Laura Gaucher s'est classée 23e. Coupe du monde de handball féminin, la France est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale contre la République tchèque qui se déroulera le mardi 12 décembre à 17h30. Une qualification méritée pour les Bleus qui ont remporté les trois matchs du groupe D, 30-29, 31-22 et 31-27 contre Angola, l'Islande et la Slovénie. Les Pays-Bas et la Norvège, autres pays qualifiés pour les quarts, s'affronteront aussi le 12 décembre à 20h30. Hier signée la première journée de la Coupe d'Europe de rugby, le Stade Rochelais échoue à domicile 9-16 face au Leinster. Sous une pluie battante, les Rochelais ont ouvert le score au bout de 3 minutes grâce à une pénalité d'Antoine Astoy. Ils ont ensuite été fébriles, multipliant les fautes. Dans leur poule à 6 équipes, le Stade français est battu à Salle 28-5 plus tôt ce dimanche. Et puis on va donner aussi les résultats des clubs franciliens comme d'habitude. 15e journée du Betclic Basket ce week-end. L'équipe de Nanterre monte à la 6e place. De la 6e place à la 5e place du classement, remportant son match 84-82 contre Dijon. À l'instar de Paris qui gagne aussi son match 92-86 face à Asvel et remonte donc à la 2e place. Boulogne-Levallois perd son match 88-100 et occupe toujours la 18e et dernière position. Côté handball, 13e journée du Likim Moly Star League, Ivry remporte son match 33-31 face à Saran. Même résultat pour le PSG qui s'impose 34-26 face à Cesson Rennes. Créteil, de son côté, échoue 24-38 face à Nantes vendredi. Pour le classement, Paris reste en pole position. Ivry et Créteil occupent la 13e place. Et puis, 10e journée du Marmara Spike League, le championnat de volley-ball masculin, Paris et le Plessis Robinson échouent tous deux 0-3 face à Chaumont et Tours. Niveau classement, Paris et Poitiers sont 10e et le Plessis Robinson devance Paris d'une seule place à la 9e position.
Très bien, c'est vrai qu'on parlait du ski, il manque beaucoup de neige, hein, donc on a annulé beaucoup d'épreuves du côté donc, de Val d'Isère notamment. Allez, on va repartir sur les rings de catch. Alors, vous avez toutes et tous des noms d'artistes.
Absolument.
Hein, c'est une obligation ?
Une obligation, non. Certains catcheurs prennent le parti de conserver leur vraie identité.
C'est-à-dire Benoît ou Laura, s'ils catchent, ils peuvent s'appeler Laura et Benoît.
Absolument, il n'y a aucune, obligation.
D'accord. Ouais. Et puis, les tenues, c'est comment ? Chacun choisit sa tenue ?
Alors, absolument, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement du sur-mesure. Donc, oui. C'est-à-dire qu'on contacte des couturiers, donc des quatre coins du monde. Mmh. Donc personnellement, j'ai eu pendant longtemps une couturière italienne. D'accord. Aujourd'hui, j'ai un couturier parisien. Mais voilà, donc ça peut changer. Je sais que j'ai des collègues qui commandent leurs tenues aux États-Unis, d'autres au Mexique, etc.
Donc si on veut s'habiller en tigresse ou en voilà, ou on peut le faire.
Absolument, c'est un peu cliché, mais
ça fait partie
du
spectacle des fois. Hein.
ça fait partie, bien sûr.
C'est ça, c'est qu'en fait. On choisit nous-mêmes notre identité et ce qu'on veut transmettre. Et du coup, à travers ça, bah, on va contacter des couturiers, couturières pour avoir différents costumes. C'est vrai qu'à une époque, en France surtout, les costumes, on n'y faisait pas trop attention. Et du coup, on prenait les premières choses qu'on trouvait un peu à droite à gauche sur des sites de sport ou bien en général de costumerie. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus pris au sérieux et du coup, on fait vraiment du sur-mesure pour que ça corresponde vraiment à ce qu'on veut transmettre, en fait.
Alors, je sais qu'hier, il y avait un show à la salle Génie, au studio Génie. Pourquoi d'abord le studio Génie ? Comment c'est arrivé ce nom ? Et puis, vous en faites beaucoup des shows ?
Alors, dans une année ? Au niveau de l'APC, donc le studio Génie organise 6 shows à l'année.
Oui. Donc ça fait rentrer de l'argent, c'est-à-dire qu'on paye, ça aide votre association.
Absolument, ça aide l'association et effectivement, donc, bon, cette salle est relativement bien placée, elle est à, littéralement à 5 minutes à pied de la Défense.
Ouais, donc, c'est facile à y aller en RER, tout ça, pas de problème.
C'est très très bien desservi et même en voiture, donc le studio Génie a un parking. Mmh. Donc c'est quand même pas mal.
C'est une salle qui peut contenir combien de spectateurs et spectatrices ?
Alors, sur le principe, c'est normalement 300 personnes. Mais donc la technique, c'est si vraiment il y a beaucoup de monde, on enlève les chaises, on enlève toutes les chaises et on peut accueillir jusqu'à 500 personnes.
Mmh. Voilà. Et le public, il est comment ? Très enthousiaste ? Il n'y a pas de débordement quand même ?
Ah, le public est exceptionnel au studio Génie. Alors donc on a un public d'habitués. J'irais un noyau dur, mais on a aussi des personnes qui sont là pour découvrir, et systématiquement à chaque show on a des nouvelles têtes, des personnes qui viennent découvrir, des personnes qui font leur premier show et qui seront bientôt réguliers.
C'est combien l'entrée ?
Alors c'est autour de 25€.
Ah ouais, d'accord, ok. Et ça dure combien de temps ? Il y a les combats, il y a des attractions, je suppose, entre les combats ?
Non, alors il y en avait auparavant, terminé.
Ça coûte un peu cher, c'est peut-être pour ça, non ?
C'est les combats, et donc, bon, alors évidemment, il y a une buvette, etc. Mais donc, effectivement, c'est les combats, et il y en a quand même pour 2 heures, voire 2h30 de show.
D'accord.
Donc c'est quand même pas mal, en général, c'est 6 à 7 combats.
Oui, alors justement, il y a 6 à 7 combats. Comment ça se passe un combat en catch ? Qui est-ce qui gagne ? Qui est-ce qui perd ? Il y a l'arbitrage aussi. Est-ce que les arbitres sont souvent très controversés ? Ou est-ce que ça fait partie du show et du spectacle ?
Alors, sur le point de vue très classique, donc pour gagner dans le catch, il faut river les épaules de son adversaire au sol, le couvrir et il faut attendre le compte de 3.
Oui, d'accord. Mais ça, on peut le faire au bout d'une minute.
Oui. Absolument, hein, absolument. Ça peut se finir à n'importe quel moment. Ouais. Et donc la deuxième méthode pour gagner, donc c'est plutôt la méthode que j'utilise, c'est de porter une prise de soumission sur l'adversaire. Donc on va peut-être parler de MMA tout à l'heure. Donc on porte une prise de soumission, par exemple une Kimura ou un sleeper hold, n'importe quoi. Ouais. Et
ça c'est des expressions très catch. Hein,
voilà. Oui, effectivement, et bah, MMA aussi.
C'est bien, c'est bien.
Ou jujitsu, voilà. Et jusqu'à ce que l'adversaire abandonne ou bien que l'adversaire perde connaissance.
Okay. Et sinon le temps, il est imparti de combien?
Alors en général, c'est les temps limite de 20 minutes.
Oui.
Voilà, et ça dépend des combats, ça dépend de l'importance. Si c'est un match de championnat, donc match pour la ceinture, ça peut être un temps limite de 30 minutes. Ça dépend. Voilà, sur des plus petits matchs, ce serait un temps limite de 15 minutes. Enfin, voilà.
Et il peut y avoir des décisions au point alors?
Absolument.
Oui.
Absolument. Alors c'est très rare, en général les matchs se finissent avant, mais effectivement, il peut y avoir des matchs nuls car on a dépassé le temps limite.
D'accord. Et arbitre, on peut le devenir facilement au catch? Est-ce que ça suscite beaucoup de vocations?
Alors, donc arbitre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai métier, c'est une vraie formation dans le catch.
Oui, bah oui.
Et ne serait-ce que connaître les règles du catch, il y a quand même un bon pavé. Et en fait, l'arbitre, est, au-delà d'un arbitre, il est là pour vraiment aider les catcheurs. Donc déjà, la première chose, c'est que dès qu'il y a une grosse prise, l'arbitre est tenu d'aller tout de suite checker les catcheurs, vérifier si tout va bien. Parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir une jambe cassée, si l'arbitre ne vérifie rien, bah, le match continue. Donc,
il peut arrêter un combat comme en boxe.
Ah mais il doit absolument avoir donc il doit absolument avoir, il a pour consigne d'arrêter un combat si jamais il y a une blessure trop grave qui se fait sur le ring. Oui, absolument. Donc arbitre, c'est une vraie formation. C'est une vraie formation, et par ailleurs, il faut que l'arbitre ne gêne pas sur le ring parce qu'il y a beaucoup de prises. Oui, si l'arbitre nous traîne dans les pattes, il risque d'y avoir un accident. Donc voilà, l'arbitre a un vrai rôle.
Et il y en a beaucoup qui sont attirés par l'arbitrage.
Par l'arbitrage.
Il faut le dire, c'est pas un rôle facile quand même. Hein.
Alors c'est rare, mais donc il y a quelques années, on a eu une personne qui était réellement attirée par l'arbitrage et qui voulait faire rien d'autre que l'arbitrage. Donc ça, c'est rare parce que dans l'école, quand on voit des élèves débarquer, en général c'est pour devenir catcheur, c'est pour être la star devant les projecteurs, etc. Et on en a un qui est arrivé, qui a dit non, moi je veux faire arbitre. Et donc il a suivi sa formation d'arbitre jusqu'au bout, et aujourd'hui c'est un arbitre exceptionnel qui a l'occasion de performer en Allemagne, il a été aux États-Unis, et c'est un arbitre de France qui travaille à Nanterre.
Alors vous l'avez dit, il y a des hiérarchies, il y a des ceintures, il y a des championnats du monde, des championnats d'Europe, des championnats de France.
Alors au niveau des championnats, c'est les championnats par structure. Donc l'APC a sa structure, donc dans sa structure a sa ceinture de l'APC. D'accord. Donc c'est le champion numéro 1 de l'APC, c'est la ceinture de l'APC, c'est la ceinture qu'ils ont. Et on a aussi
et
la ceinture par équipe.
On l'obtient par des combats internes, par des tournois internes. Alors comment on décrète qu'on est champion le meilleur de son association?
Alors bah, la ceinture peut être défendue à n'importe quel moment. Donc ça peut être défendu à l'extérieur de la structure ou à l'intérieur de la structure. Et donc là par exemple, si on parle du show d'hier, hier il y a eu un match pour le titre de l'APC pour savoir qui était le meilleur catcheur de l'APC. Donc voilà, c'était un match en 1 contre 1 dont je vais citer le nom des catcheurs. Il y a eu l'Aigle Blanc qui a affronté Thiago Montero. Et donc actuellement c'est Thiago Montero le champion de l'APC.
D'accord.
Voilà.
Et puis donc bah, vous êtes celle qui présentait les combats
Oui, alors moi je présente les combats du show APC Evolution, qui est du coup le show. En fait, le show.
Il faut faire monter là.
En fait, il y a le show APC, du coup, le show principal qui se déroule au studio Gini, qui est avec du coup les catcheurs confirmés, accomplis, donc nos coachs, d'autres stars internationales aussi qui viennent parfois. Hier à l'APC, il y avait deux catcheurs extérieurs. Il y avait Jordan Saïd qui vient de Londres et Jay qui vient de la OTT en Irlande. Du coup, donc c'est deux catcheurs qui viennent de structures différentes à travers le monde. On a reçu d'autres catcheurs qui ont une plus grosse renommée. On a reçu Will Ospreay, qui est un catcheur anglais, s'il me semble. Mm-hmm. On a reçu Bandido, qui est un catcheur mexicain.
Et ces gens le dépêchent gratuitement?
Pardon?
Ces gens se dépêchent.
Absolument pas.
Voilà. Je me devais de poser la question, ça ne m'étonne pas. Non. Voilà. Bah, bien sûr.
Évidemment, ils sont défrayés.
Bien sûr.
Et de l'autre côté, on a, on a le show APC qui est le gros show. Et moi, je fais partie du show APC Evolution qui est donc le show élève. C'est le show de l'école de l'APC qui se déroule généralement le vendredi du coup, au gymnase Évariste Galois à Nanterre, là où on s'entraîne le reste de la semaine. Et en fait, je suis annonceuse de ce show-là et c'est le show de la nouvelle génération de l'APC parce qu'en fait, comme il y a une hiérarchie dans le catch, en tant que jeune élève, il faut ce qu'on appelle payer ses dues dans le catch. Donc, il faut avoir... il faut s'être entraîné durement, il faut avoir montré qu'on est capable d'affronter les plus grands. Et donc, avant de passer sur le gros show de la structure, on doit passer par APC Evolution et montrer qu'on est capable d'affronter les plus grands. Voilà.
D'accord. Bah pourquoi pas un jour peut-être présenter, ça va me permettre de faire la liaison, avec le MMA, les combats de MMA. Hein, ben moi, pourquoi pas hein.
Franchement, ce serait top. Voilà. Hein. Parce qu'on va pas se mentir que déjà le catch en France a été mis en avant grâce à ses présentateurs. Mm-hmm. J'ai oublié leur prénom, mais...
Christophe Agius et Philippe Chéreau, du coup, c'était les deux commentateurs français.
Ils étaient exceptionnels. Donc,
ils le sont toujours, ils commentent encore ensemble aujourd'hui.
Trop bien, trop bien.
C'est des légendes.
Bon, l'actu MMA de ce mois-ci, c'est quoi ?
L'actu MMA de ce mois-ci, elle est très très intéressante. Oui. Un peu moins fournie que le mois dernier, mais du coup, ce qu'on a, c'est déjà, on va commencer encore une fois par notre cher
si
star.
Si tu parles un peu plus près de ton micro, voilà.
Excusez-moi.
Et tu enlèves la tête, voilà,
on va commencer notamment avec Cédric Doumbé, qui récemment au PFL à Dublin a ce qu'on appelle call-out, c'est-à-dire appeler un adversaire, notamment le fameux...
Faut lire le portable, tu peux
lire. On va le lire en haut. Désolé, merci.
C'est direct. Hein.
C'est ça. Il a call-out du coup Michael Page Venom, qui est un grand combattant de MMA, notamment connu au Bellator. On voit souvent ces vidéos qui apparaissent dans les réseaux sociaux pour ses prestations assez remarquables, etc. Donc là, c'est super parce que ça va permettre de donner une grosse carte et un gros adversaire à Cédric Doumbé. Donc on espère que ça va pouvoir se réaliser, se conforter. On a également une petite surprise incroyable, c'est qu'on a du coup le réalisateur Frank Gastambide qui va faire justement une série sur le MMA et dont participe la légende John Jones. Donc il y a John Jones qui va participer justement sur cette série avec Frank Gastambide et ça c'est super intéressant et ça montre vraiment que le MMA français en fait tout simplement est en train de monter en puissance. Si même les légendes viennent participer à des séries sur le MMA, c'est topissime. On a eu également du coup une possibilité de voir Francis Ngannou affronter Deontay Wilder. Donc du coup, ancien champion de boxe, après avoir combattu Tyson Fury.
C'est fou ça.
Cette fois-ci, Ngannou il s'attaque à Deontay Wilder. Donc franchement, est-ce que ça va se faire ? Apparemment, c'est possible. Ouais. Et en plus, ce sera peut-être en MMA. Donc c'est quand même important de le signifier et du coup ça ouvre le champ des possibles, ça montre que maintenant on voit des carrières transversales, c'est-à-dire des boxeurs maintenant
multisport, quoi.
Voilà, deviennent multisports. Ngannou qui a fait de l'anglaise, maintenant Deontay Wilder qui se projette pour faire du MMA.
Bon, si je veux être méchant, Tony Yoka, il faut qu'il fasse MMA, troisième défaite de boxe.
Je voulais pas en parler, c'est compliqué pour lui.
Pour lui, c'est pratiquement fini.
Je sais pas, franchement, j'essaie de garder espoir pour lui, mais c'est vrai que là, il est mal barré, on va pas se mentir.
Ouais.
Donc là, c'est compliqué. Et bien évidemment, on finira sur le jeune prodige du MMA, Saledine Parnasse, qui prépare son futur combat pour la troisième ceinture. Il est actuellement double champion au KSW. Et là, il va tenter de gagner une troisième ceinture face à Adrian Bartoszynski, excusez-moi pour la prononciation.
Non mais c'était bien dit, c'est bon.
Il pourra être peut-être champion des welterweight, sachant que là il est déjà champion de deux catégories différentes. Mm-hmm. Donc là franchement c'est déjà une bonne actualité au niveau du MMA, mais on a aussi autre chose, c'est qu'on a encore un Français qui réussit à l'UFC. Il s'agit de Kevin Jousset qui s'est imposé dans son dernier combat. Et donc, du coup, on a encore beaucoup plus d'athlètes français au MMA, à l'international, qui commencent de plus en plus à se faire connaître et à gagner en puissance. Donc, je pense que le MMA français, a vraiment un bon avenir devant lui. Parce qu'on a de plus en plus d'athlètes qui réussissent à l'international face aux meilleurs. Et je pense que ça n'annonce que des belles années pour le MMA français. Et aujourd'hui, la thématique que je voulais aborder avec toi, Philippe, c'est la thématique du cutting.
Mais explique-nous ce que c'est.
Mais avant de commencer, du coup, j'aimerais savoir, je pense que je vous poserai la question du coup à nos catcheurs, s'il y a également du cutting du coup dans le catch.
Alors là, comme ça, le terme me dit rien.
Le cutting, c'est lorsque les... du coup, je vais profiter pour le définir. C'est le processus de perdre du poids avant de la peser.
Ça, c'est intéressant.
Ça permet du coup aux combattants d'avoir un avantage sur leur adversaire. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a un combattant qui fait 70 kilos. Qui va entamer un processus pour perdre du poids pour pouvoir affronter un adversaire de 60 kilos et regagner quelques kilos le jour du combat. Et du coup, ça lui donne un certain avantage face à son adversaire. Okay. Est-ce que vous avez ce processus-là dans le catch ou pas du tout? Est-ce que même il y a une pesée avant chaque combat?
Alors non, justement, il n'y a pas forcément de pesée. Alors il y a des pesées dans le cas où, la structure décide qu'il y en a une. Donc là, la dernière pesée que je me souviens du catch européen, c'était Tristan Archer face à Mario Salani pour le titre de la WXW, où il y a eu une pesée justement, parce que on était vraiment sur des athlètes quasiment similaires et il y avait quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc Tristan Archer pesait un peu plus que Mario Salani, et donc du coup, ça a permis de créer quelque chose. Maintenant, non, c'est pas une pratique qui se fait tant que ça. Ne serait-ce que peser, on le fait pas du tout.
Ok, ok.
Donc ça peut arriver, mais pas toujours.
Ça veut dire du coup que les adversaires ne se battent pas entre catégories de poids, pardon.
Alors, ouais, c'est pas des catégories de poids. On a des divisions, mais qui ne concernent pas le poids.
Après, ça dépend des structures. Y a des structures qui font le choix de faire des divisions, qu'elles soient genrées, de poids, etc. Y avait à l'époque la division Cruiserweight à la WWE, qui était du coup une division pour les poids légers. Mais aujourd'hui, tout le monde peut s'affronter. Il n'y a pas de division dans la plupart des structures dans le monde.
Ok, parce que dans MMA, pour le coup, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pesées. En fait, il y a tout le temps une pesée avant chaque combat. En fait, c'est comme tous les sports de combat en général, il y a toujours une pesée. Et il y a la pratique du coup du cutting qui permet justement à certains combattants justement de changer de catégorie de manière aisée et de pouvoir du coup affronter un adversaire avec un léger avantage. Problématique, c'est que cette pratique, elle a fait polémique parce qu'elle met beaucoup et très souvent en danger la condition,
la santé des
combattants. Il y en a certains qui font même des arrêts cardiaques juste avant le combat. Donc du coup, c'est une pratique qui... Ouais.
Mais ils ne sont pas suivis médicalement pour
ils sont suivis tout le long.
Ils ont quand même des coachs, ils ont quand même des gens autour d'eux qui doivent leur dire attention, vas-y mollo quoi.
C'est une pratique qui se fait sur plusieurs semaines, donc ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait sur plusieurs semaines. Donc du coup, ils sont suivis, toujours suivis par des médecins. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est une pratique qui est super aléatoire parce que ça dépend vraiment de comment le corps réagit. Parce que le but, en fait, c'est de faire perdre du poids, et pour faire perdre du poids, les combattants perdent beaucoup d'eau en fait. On fait en sorte qu'ils perdent le plus d'eau possible. Et en perdant de l'eau, du coup, le corps réagit différemment. Parce qu'on est tous différents, etc. Et donc, par exemple, récemment, on a le combattant Baki, qui n'a pas pu combattre à la RES, parce que justement, il n'avait pas réussi à faire le poids, parce que son processus de cutting n'avait pas abouti. Et donc, du coup, son corps refusait de perdre plus de poids que ça. Donc, du coup, on a toute cette problématique-là, mais c'est une problématique qui, quand même, permet de nourrir un peu le divertissement. Parce que ça permet de créer des combats que normalement qui n'auraient pas lieu, puisqu'on a des gens on a des combattants qui appartiennent à des catégories différentes. Et lorsque un des combattants perd du coup suffisamment de poids, ça le permet justement d'affronter un autre combattant. Et du coup, ça permet de faire la promotion de certaines cartes de combats, d'événements. Et donc du coup, je pense que c'est l'une des raisons qui fait que c'est une pratique qui continue, mais quand même aux dépens de beaucoup de combattants.
Mais les pesées, elles se font à quel rythme? C'est tous les combien? Ils doivent se peser avant le match et avant?
En fait, la pesée se fait un jour avant le combat, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, un jour avant le combat.
Comme en boxe, quoi.
Exactement.
Ouais.
Et ça arrive le côté inverse de gens qui vont justement pas perdre du poids, mais essayer d'en gagner pour affronter quelqu'un de...
Ça se fait très rarement. Ça se fait très rarement parce que, en fait, lorsque ça se fait, c'est que le combat, c'est un combat que tu prépares. En fait, on appelle ça une montée en catégorie. Et du coup, ça se fait sur plusieurs mois ou même sur une année. Parce qu'en fait, il faut gagner en muscle, etc. C'est pas juste.
Il faut faire une prise de masse.
C'est ça, en fait, faire une prise de masse, etc. Et il y a aussi cet aspect de c'est plus facile de perdre, entre guillemets, parce que ton corps, il est plus léger. Or que quand tu gagnes, il faut que tu t'habitues à un corps plus lourd. Et donc, du coup, là, tout de suite, ça devient compliqué et ça demande beaucoup plus de temps que pour la perte de poids, en fait.
Mais justement, je pense que c'est pour ça que cette pratique du cutting n'est pas forcément pratiquée dans le catch, parce que le but dans le catch, c'est surtout de prendre pas tant de maigrir.
Ouais.
C'est plus de gagner du poids, ouais. Effectivement. Ouais. Ça nous permet de viser derrière des ceintures poids lourds, justement.
Il y a moins d'endurance. Ouais.
Alors, il y a moins d'endurance, oui, mais donc je sais pas si tu as regardé un peu de catch, mais on soulève beaucoup les adversaires. Ne serait-ce que savoir que...
Donc c'est plus en force, en fait.
Voilà, le fait que j'ai pris du poids fait que mon adversaire peut plus me soulever, c'est intéressant. Ou le fait que je puisse porter les adversaires plus légers que moi, c'est plus intéressant, du coup.
Ouais. C'est pour ça que je me posais la question au début, si vraiment le poids, ça avait une importance, et au final...
C'est le sens inverse.
C'est, ouais, okay.
c'est une importance, mais dans le sens inverse.
Du coup. Okay, ouais, ouais.
C'est, plus t'as du poids, mieux c'est.
Ouais, c'est rare, hein, c'est rare. Parce que c'est souvent l'effet inverse dans les grands sports de combat. Hein. On cherche plus à faire du poids pour justement.
Chez les sumo, je suis pas sûr que.
Oui, les sumo, ouais. Quoique, bon. Quoique.
Ah ouais,
ouais? Ouais, 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 ça dépend.
Okay.
Ouais. Ceux qu'on a eus, ils n'étaient pas aussi énormes qu'on le pensait. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Ouais.
D'accord.
Bah écoute, voilà. Bah, voilà. Bah, c'est bon à savoir.
L'actualité mensuelle du MMA.
Ouais, hein, ce sera tout pour ce mois-ci.
Très bien. Retour le 15 janvier. Hein.
C'est clair. Hein,
voilà, ok, mais tu restes avec nous pour la fin de cette émission, naturellement.
Bien sûr, bien sûr.
Allez, on va marquer la deuxième pause musicale. Oh, mythique Beatles, Let It Be. Ensuite, ce sera la partie foot et puis on finira cette émission sur le catch. Allez, Let It Be et les Beatles.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, yeah.
Voilà, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast et puis elle sera rediffusée dès demain entre 10h et 11h30. J'accueille mon ami Malik au bout du foot, puisqu'on va prolonger cette émission à travers une émission de foot avec un autre regard. Bonsoir Malik.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Tout va bien, pleine forme.
Bah, ça va super bien, fatigué mais ça va, ça va.
Allez, on y va.
Alors aujourd'hui, quatre gros points aujourd'hui dans Au bout du foot. On va commencer justement avec... Aboubakar qui est du côté de Marrakech au Maroc avec le ballon d'or africain, Montpellier FM au cœur de l'événement avec donc Aboubakar, tout savoir et tout comprendre sur la cérémonie, rendez-vous donc dans quelques instants. Également le dossier au bout du foot, la première ligue, on va l'évoquer, il y a du gros spectacle, il y a un suspense, il y a du star system, il y a de gros salaires, pourquoi la première ligue nous fascine-t-elle autant? Quelle est la recette de leur succès? Louis-Marie Vallant de l'Observatoire du Sport Business va venir ici même en studio nous éclairer. Retour sur la Ligue 1, Alexandre Lacazette et l'Olympique Lyonnais, trois buts avec une deuxième victoire à la clé pour les Gaunes. On va se poser la question de savoir si ça va durer. Paris Saint-Germain, Lens, Marseille, Rennes, Toulouse, comment vont nos clubs engagés en Europe? Qu'est-ce qu'ils ont produit lors de ce championnat? On en parlera également dans Au bout du foot. La chronique, quel choix? Pour quel résultat? En 20 minutes chrono, Mbappé seul au monde dans la course du meilleur buteur de la Ligue 1. Où est passée la concurrence? C'est la question qu'on pose ce soir. C'est dès 20h30 pardon, sur Montpellier FM et c'est en direct.
Très bien. Juste donc après, Montpellier Sport. Bonsoir Stéphane Dezenclos du quotidien du sport.
Bonsoir. Bonsoir les amis. Bonsoir alors, Mali. Bonsoir Philippe.
Voilà. Alors, et naturellement, bah, comme d'habitude, hein, on va commenter l'actu foot de cette semaine. Bon, c'est vrai que ça a été une semaine un petit peu plus classique, traditionnelle, hein, uniquement marquée d'abord par des matchs en retard de championnat. On va rappeler la victoire de Marseille, importante face à Lyon 3-0, et le nul qui ne change pas grand-chose entre Brest et Strasbourg, un partout. Et puis une 15e journée de championnat où Marseille donc, a confirmé que ça allait mieux. Ils sont allés gagner hier, donc en conclusion de cette journée, 4-2. À Lorient, une journée qui avait commencé notamment par un décevant nul sur le plan du spectacle entre Montpellier et Lens 0-0. On a eu la victoire de Monaco à Rennes 2-1, celle du Paris Saint-Germain au Parc des Princes devant Nantes 2-1. Et puis on va continuer aussi sur ces autres résultats puisque Nice a battu Nantes 2-1, nul entre Clermont et Lille 0-0, victoire de Brest à Metz 1-0 et nul victoire aussi de Strasbourg. Ça permet à Patrick Vieira de sortir un peu la tête de l'eau devant le Havre 2-0. Et puis on l'avait dit donc Lyon qui a battu Toulouse 3-0. Donc au classement, Paris Saint-Germain toujours en tête avec 36 points, parti quand même pour être champion d'automne. Devant Nice, deuxième 32, troisième Monaco 30, quatrième Lille 27 et cinquième Brest 25. Et en bas de tableau, on voit quand même que les positions se resserrent. Hein. Rennes est 13e avec 15 points, 14e Montpellier 14 points, 15e Toulouse 13 points, 16e Lorient 12 points, 17e donc Clermont 11 points et 18e Lyon 10 points. Donc c'est vraiment très très compact, hein, Stéphane.
Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, on s'y attend. Surtout, oui. On peut s'y attendre, surtout quand on voit le nom des clubs. Bah, Lyon dernier avec 10 points.
Mais Lyon qui a gagné quand même, hein. Donc,
on peut penser qu'ils vont quand même prendre des points. Donc, ils vont peut-être remonter. Donc, non, c'est vrai que c'est, il y a des équipes qui sont pas vraiment à leur place là où elles sont. Donc, tout peut arriver avec très, très peu de points entre le 15e ou le 14e et puis le dernier. Donc, c'est sûr que ça va être palpitant, à mon avis, jusqu'au bout. Puis en haut, c'est pareil. Hein.
Oui, bien sûr. Paris a pris un peu de marge quand même. Hein. 4 points d'avance sur Nice.
Bon, bah, Paris, mais quand je disais en haut, pareil, je parlais un petit peu sans Paris, quoi, entre Nice, de Nice à Lille, ou 5-6, pour les de la place de 2 à 6, va être très chaud, quoi, ou même.
Alors il y a quand même quelques faits intéressants, c'est que Marseille va mieux. Marseille a battu Lyon 3-0, hein, on l'a dit mercredi dans ce match en retard, et les Marseillais ont réenchaîné sur une bonne victoire à Lorient 4-2. Donc c'est une belle semaine pour l'OM quand même.
Ouais, c'est une belle semaine pour l'OM sans que ça soit particulièrement
spectaculaire.
Si ils ont fait un match c'est dur, c'est un peu difficile parce qu'en ce moment tout le monde a un peu la tête, j'ai l'impression, on regarde le foot avec une tête un peu, avec pas mal d'a priori et tout. Donc effectivement, l'OM a fait un match très correct, très sérieux contre Lyon, a gagné 3-0. Alors, on a tout de suite dit que Lyon, c'était très, très, très faible. Moi, je les ai, ils n'ont pas été bons, dont certaines individualités notamment, qu'on n'a pas vu du tout, mais ils n'ont pas été non plus si faibles que ça. Mais en tout cas, c'est vrai. Puis après, ils vont gagner à Lorient. Alors après, bon, même s'ils ont plus ou moins raté leur deuxième, deuxième mi-temps, c'est quand même une victoire 4-2 en mettant des buts, avec des joueurs retrouvés, comme Aubameyang, par exemple.
Oui, il a mis Delhadji, hein, Aubameyang. Hein. Ça fait quelques matchs où il est plutôt bien revenu au premier plan. Hein.
Ah, tout à fait, il revient bien. Et vous savez que sur le... Je crois qu'il y a une stat qui dit que sur ces 20 premiers matchs avec l'Olympique de Marseille, il a maintenant marqué plus de buts que Alexis Sanchez, par exemple. Mm-hmm. Dès qu'il a, je crois qu'il a marqué, je ne sais pas si c'est 20, le nombre 15, ou je ne sais pas combien, mais il a marqué, je crois, 2 ou 3 buts de plus qu'Alexis Sanchez. Donc, ça veut dire qu'il est… Eh bien, moi, j'y ai toujours cru, j'étais un peu désolé sur le site, que ça soit sur le site ou en début de saison quand on en a parlé dans les différentes éditions. Moi, j'ai toujours cru en Aubameyang. C'est vrai que j'avais pris un peu une claque avec ces matchs ratés, mais tant mieux si ça se passe bien pour lui et puis pour l'OM, hein, qui va espérons eux terminer premier de son groupe en Ligue Europa. Il leur faut un nul à Brighton et puis qu'il revient bien. Et on a besoin d'un OM fort et on a besoin d'un OM en Coupe d'Europe, qui soit fort et qui soit déjà au moins en Coupe d'Europe, donc tant mieux, quoi. Mmh.
Alors, bon, une équipe comme Nice qui bat Reims 2-1, qui reste à distance respectable du PSG, ou Monaco qui continue son petit bonhomme de chemin, donc en s'imposant à Rennes 2-1. Par contre, on s'inquiète pour Rennes quand même, hein, Stéphane. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, le match de Rennes, le dernier match de Rennes est quand même assez inquiétant. Ouais, c'est contre Monaco, donc c'est vrai que c'est inquiétant. En plus, il change d'entraîneur, alors c'est sûr que c'est pas c'est compliqué, quoi.
En tout cas, on l'a dit, excepté Paris, hein, c'est un championnat où encore on voit que tout est possible. On va arriver à la trêve, Paris va être sûrement champion d'automne, mais enfin, après, on l'a dit, hein, des positions très serrées en haut comme en bas où tout est possible.
Voilà, tout est possible. Voilà ce que je disais. Vraiment, c'est clair que là, on ne voit pas. Ça serait vraiment très, très étrange que le Paris Saint-Germain soit ne serait-ce que menacé. Hein. Moi, je les voyais largement avec 10-12 points d'avance sur le deuxième à la fin de la saison. Monaco est un peu trop irrégulier. Pour l'instant, Nice nous enchante pas du tout. Mais bon, Nice a beaucoup de chance. Ils ont eu, par exemple, Nice 9 poteaux en leur faveur depuis le début de saison. Je crois qu'il y a, je sais même pas s'il y a une équipe, il y a peut-être une, je sais pas s'il y a une équipe de Ligue 1 qui fait aussi bien. Donc c'est énorme. Puis quand on regarde, tout est dit dans le match, la victoire de Nice contre Reims, ouais, ce week-end, hein, des poteaux, et puis un but, quoi, vraiment donc très chanceux. Donc pour l'instant, ça tient, Nice. Bon, et puis après, derrière, Lille, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est bien, c'est sérieux. C'est quand même Lille qui me semble le plus régulier derrière.
Alors, tiens, justement, un de nos amis catcheurs, Salem, est un passionné de foot. Salem, votre regard sur le championnat et puis une équipe fétiche, une équipe favorite que vous aimez?
Bah non, mais c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de voir Lyon jouer le maintien, presque se battre contre la relégation. Non, j'ai pas forcément de favori en Ligue 1. Maintenant, j'ai un œil très très près sur ce championnat et notamment c'est très impressionnant ce qui se passe en Ligue des Champions. Mmh. J'ai été très impressionné en début de saison de voir Arsenal s'incliner face à Lens.
Oui, bah ça fait partie des bonnes choses du football. Hein.
Ouais, non,
bonne surprise.
Bonne surprise. Ouais. C'est ça, exactement, bonne surprise. et notamment, moi je suis quand même très confiant sur l'Olympique de Marseille premier de son groupe en Ligue Europa.
On verra.
Très clairement. Après, bon, on se souvient de la dernière finale que Marseille a joué en Ligue Europa, c'est très mal fini.
Bah oui, sûr. Comme beaucoup d'équipes françaises.
C'était en 2019, c'est ça?
Non, 2018.
2018, c'est ça. Ouais, exactement.
Très bien. Allez, Stéphane, donc on a enchaîné sur la Ligue 2. Alors, c'était une journée en semaine. Hein. Là, bah, on savait que depuis un moment, donc, ça se resserrait, hein, l'écart pour Laval. Bah, ça y est, Laval s'est fait dépasser, puisque Laval a été battu à Ajaccio 2-0. Angers donc, a pris le commandement de ce championnat en s'imposant devant Grenoble 1-0. A noter quand même que Auxerre a gagné à Concarneau 2-1. Nouvelle défaite de Saint-Etienne. Je crois que c'est la 7e consécutive. Hein. Les Stéphanois qui ont changé d'entraîneur avec l'arrivée de... Dallaguillo.
Je sais pas si ça fait 7
si,
quand même.
Si. 7 avec la Coupe de France. Ouais. 7 avec la Coupe de France. Ouais, avec la Coupe de France.
Moi j'aurais dit 6 avec la Coupe de France, mais bon, peut-être. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est une catastrophe. On en parlait. Rappelle-toi, on disait. Ils sont encore en haut, Ben maintenant, ils sont quand même très loin. Et c'est vrai que ça a coûté le...
Dallaguillo qui arrive. Voilà. Donc, victoire de Guingamp à Saint-Etienne 3-1. Bordeaux, c'est pas mieux que Saint-Etienne. C'est même pire. Hein. Bordeaux battu à Quevilly-Rouen en 3-2. Et puis le Paris FC qui a battu Rodez 2-0. Donc, Angers, on l'a dit, prend le commandement des opérations avec 34 points. Devant Laval, 2e, 33. Auxerre, 3e, 32. On voit que c'est encore très serré. Là aussi, hein, et étonnante équipe de Pau. 4e avec 29 points. Saint-Etienne, on en parlait, 8e, 24 points. Ensuite, le Paris FC, ils sont dans le milieu de tableau avec Rodez et puis Amiens, 23 points. Et puis alors en bas, c'est aussi très très serré. Mais Bordeaux est 17e avec 18 points. 18e, Quevilly-Rouen, 15 points. 19e, Dunkerque, 13 points. Et 20e, Valenciennes, 11 points. Il y a seulement 5 points donc, entre le groupe donc, du Paris FC, c'est-à-dire le milieu de tableau et Bordeaux. Donc là aussi, c'est très très compact.
Ouais, c'est très chaud, avec 4 descentes cette saison encore. De toute façon, on sait que ça va être très, très compliqué. C'est pour ça que les points à prendre ne sont plus à prendre. Et c'est vrai que certaines équipes, comme par exemple Rodez, qui marque des points, Pau, par exemple.
Oui, aussi, étonnante équipe, un quatrième Pau. Hein.
Ouais, voilà, je ne sais pas s'ils vont tenir, mais en tout cas, s'ils vont tenir pour terminer dans les 5, Pau, par exemple, mais en tout cas, les points pris ne sont plus à prendre maintenant. Donc, eux, en début de saison, je pense qu'ils voyaient surtout pour le maintien.
Alors, c'était un week-end de Coupe de France aussi. Hein. 5 clubs de Ligue 2 sont passés à la trappe. Saint-Etienne battu par Nîmes 1-0. Grenoble est passé à la trappe. Annecy, qui avait été un des héros de la Coupe de France la saison dernière, est aussi passé à la trappe. Ainsi que Dunkerque et Lassé à Ajaccio. Par contre, c'est passé pour le Paris FC contre Saint-Denis de la Réunion 3-1. Alors, je sais que les tirages au sort avaient lieu à partir de 19h. Alors, peut-être que vous avez des affiches, non ?
Les
principales. Hein.
Là, il y a une énorme affiche, c'est Lens-Monaco.
Ah, d'accord, Lens-Monaco.
Par exemple, il y a dans des clubs de Ligue 1, il y a Metz-Clermont.
Oui, c'est pas mal. Ouais.
Il y a club de Ligue 1, et puis dans club de Ligue 1, ça doit être tout, mais quand même, il y a des affiches quand même assez intéressantes, comme par exemple Brest-Angers. Premier de Ligue 2, hein, et... Il y a Guingamp-Rennes, par exemple.
Eh oui, beau derby breton, ouais.
Voilà, bon, Amiens-Montpellier, Amiens est un peu moins bien en Ligue 2, mais quand même, ça va être un match à suivre. Le Havre-Caen, un derby normand.
Oui, ah oui.
Le Havre-Caen, par exemple. J'ai vu maintenant, sinon, pour information, pour ceux qui veulent le savoir, je pense qu'il y en a quand même, c'est l'OM ira jouer à Thionville, Lusitanos, un club de National 3. D'accord. Et le Paris Saint-Germain, Revel. Un club de R1, quoi. C'est un petit poussé.
D'accord. Donc, et le Paris FC, on connaît, non ? On sait le Paris FC, peut-être pas encore.
Ouais, le Paris FC, j'ai pas. Est-ce que je l'ai noté, Paris FC ? Non, je l'ai pas noté. Oui, on le connaît, bien sûr, ouais. En féminin, par contre, en féminine, le Paris FC, c'est un des chocs. Il y avait les 16e de finale qui étaient tirés aussi. C'est Paris FC Bordeaux. D'accord. Donc, c'est quand même un gros choc en féminine, mais chez les. Chez les garçons,
on va essayer de le retrouver.
Le tirage là, je regarde si je l'ai avant.
D'accord.
Mais c'est sûr que c'est Avassay, je l'ai. Vous jouez à Alès en Cévennes, club de National.
D'accord. 2. Ok. Paris FC donc contre Alès. D'accord.
En Cévennes, c'est un club de National 2, donc ils vont se déplacer pour.
D'accord.
Pour aller jouer là-bas. Quoi.
Les matchs sont inversés. Hein. On sait que quand il y a deux divisions d'écart.
Je ne sais pas comment a eu lieu le tirage, mais c'est effectivement inversé qu'à partir du moment où il y a deux divisions d'écart entre les clubs. Donc voilà, ça va être un. Il y a quand même un Lens-Monaco qui va être quand même gros choc. Donc la Fédé doit être 7. Ça va être un gros match, en plus super, super intéressant, les matchs de Coupe de France.
Oui,
puis le 5, le 6 et le 7 janvier.
Voilà, et puis on va rappeler que il n'y a pas de prolongation, ça se termine au temps réglementaire et après c'est la séance de tir au but, sauf sur la finale. Hein. Il faut rappeler, voilà. Donc ça équilibre un petit peu plus pour les clubs hiérarchiquement inférieurs, quoi.
Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ouais, ça équilibre quand même les choses. Avec, on rappelle, bah, si on veut, et donner des petites infos. Il n'y a pas de VAR avant, je crois, le quart de finale, par exemple, en Coupe de France. Et voilà, c'est cet écart de groupe et tout. Mais bon, on va dire qu'on a quand même 7-8 matchs intéressants qui sont ou avec des bonnes équipes courtes, des bonnes équipes de Ligue 2 quoi, des équipes de Ligue 1 entre elles quoi. Donc Metz Clermont par exemple, ça va être un match aussi très ouvert, très intéressant hein, même si les deux équipes pensent d'abord au maintien bien sûr que à la Coupe de France quoi, mais bon. Il y a des matchs comme ça. Brest-Angers, ça va être intéressant parce qu'on parlait de la Ligue 2 tout à l'heure. Pour moi, la Ligue 1, pardon, tout à l'heure, la surprise, c'est Brest.
Oui.
Ils ont fait 2-3 mauvais résultats, Brest. À un moment, on pensait un peu tous que ça y est, je crois qu'ils étaient redescendus 8e ou 9e, Et puis du coup, là, ils viennent d'enchaîner quand même des bons résultats. Là, 4 points dans la semaine.
Ils sont 5e avec 25 points. 5e avec 25 points.
Ils ont pris 4 points dans la semaine avec, avec leur match nul contre Strasbourg et leur victoire ce week-end à l'extérieur. Donc, c'est pour moi vraiment la grosse surprise et intéressante. Et je trouve que ça joue mieux, ça propose plus de jeux en tout cas qu'une équipe comme Nice, quoi.
Ouais, du bon travail donc, de la part d'Éric Roy, l'entraîneur de cette équipe de Brest. On va parler des féminines, justement, on en parlait. Hein. Alors, on va quand même rappeler que, bon, ça c'était pour la forme. L'équipe de France a battu le Portugal 1-0 pour le dernier match de Ligue des Nations. L'équipe de France donc, qui termine première de sa poule avec 16 points devant l'Autriche, deuxième 10 points, et qui est donc qualifiée pour les demi-finales de cette Ligue des Nations. Ça sera au printemps prochain. Et puis en championnat, bah, ça continue toujours, Stéphane, hein, pour les filles de Lyon, hein, qui se sont largement imposées devant Lille 5-0. Victoire du PFC à Montpellier 4-1. Et Paris Saint-Germain qui est allé faire nul au Havre 1 partout. Deux matchs quand même en retard pour le PSG, toujours. Hein, même si Lyon survole le championnat, toujours invaincu avec 30 points. Devant le Paris FC, 25 points. Et donc le Paris Saint-Germain, 3e, 19 points.
Voilà, ça fait maintenant l'objectif, je crois, du Paris Saint-Germain, c'est clairement d'essayer de se battre pour la deuxième place. Hein,
oui, c'est ça.
Parce que ça n'a pas été facile que ça. Hein, l'équipe de. Quoi, moi, je trouve que ça fait quand même au moins 4-5 saisons qu'on n'a pas vu une équipe du Paris Saint-Germain aussi faible que celle qu'on a aujourd'hui. Quoi. Donc, par exemple, ce week-end, ils font un match nul au Havre. Je crois qu'ils égalisent à la 93e ou 94e minute.
Hein. Ouais, dans le temps additionnel.
Ouais, donc c'est assez. C'est assez inquiétant quand même. On comprend pas trop cette politique sportive du PSG. Quoi. Moi, en tout cas, je comprends pas du tout cette. On a déjà parlé cette politique sportive du PSG chez les féminines. J'arrive pas à comprendre quoi.
Stéphane, on va très brièvement donc finir sur cette semaine assez calme. Hein. On arrive par contre dans une semaine beaucoup plus chargée avec les Coupes d'Europe.
Ouais.
Bon, on peut rester optimiste pour nos équipes françaises. D'une façon générale.
Je pense qu'on peut. Maintenant, on est toujours pareil. Hein, le foot, hein, c'est pour ça qu'on l'aime. Hein, c'est que c'est difficile de dire. Avant, tout peut se passer. Hein, il peut y avoir un 3-0, par exemple, pour le Paris Saint-Germain à Dortmund, comme il peut y avoir un 2-0 pour Dortmund. Là, tout peut arriver. Bon, je savais, dans ce groupe-là. Va savoir après ce qui va se passer dans l'autre match du groupe, Newcastle-Milan AC, avec les deux équipes sont quand même en petite forme, restent toutes les deux sur deux défaites en championnat. Bon, les deux c'était à l'extérieur, mais quand même. Donc on sait pas, c'est très dur de dire ce qui va se passer. Pour Lens, pour Lens, ils vont tout donner, ça, bien sûr, on le sait, et on va dire qu'ils ont quand même le nul pour eux, donc je pense que Lens peut y arriver quoi. Je pense que Lens va pas rater son énorme rendez-vous, mais c'est peut-être pour moi plus difficile pour Lens de se qualifier pour la Ligue Europa que pour le Paris Saint-Germain de se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais ça va être compliqué pour les deux et tout peut arriver dans les deux matchs.
Oui, et puis en Ligue Europa, pareil. Hein, donc, il y a des matchs indécis. Alors, il faut quand même rappeler, en fait, quand même que c'est important, hein, que le troisième de Ligue des Champions, il joue le deuxième de Ligue Europa en match de barrage. Hein, donc, ça ne donne pas une qualification officielle. Hein.
Voilà, non, effectivement.
Ah ouais, attention, hein.
Ça... Ouais. Ouais, voilà.
Et pareil pour la Ligue Europa, puis la Ligue Europa Conférence, hein. Attention, hein.
Voilà. Et c'est voilà, exactement. C'est pour ça qu'il faut surtout voir ça pour ce qui concerne les clubs de Ligue Europa. Par exemple, un club comme comme l'Olympique de Marseille, par exemple, ça pimente un petit peu l'enjeu quand même, parce qu'effectivement, ils ont fait un bon parcours, ils sont bien en ce moment, ils vont à Brighton. Si bon, ils peuvent faire un nul, donc ils ont l'avantage pour eux. Mais s'ils perdent à Brighton, ils se retrouvent quand même
deuxième et barragiste,
septième de finale de Ligue Europa, mais contre un troisième de Ligue des Champions. Mmh. Donc quand on regarde les groupes des champions, vous pouvez vous retrouver contre eux. Par exemple, si c'est le Paris, ça sera pas le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain est troisième. Mais si le Paris Saint-Germain passait, ça pourrait être le Milan AC ou Newcastle. Bien sûr. Vous regardez les autres. Il y a peut-être Benfica, par exemple, à deux têtes qui peuvent terminer à ces trucs-là. Donc ça peut être aussi vraiment une mauvaise surprise, comme pour Lens. Mais bon, Lens, je pense que ça sera déjà presque un bonus, un 16e de finale de Ligue Europa, ou en tout cas un tour de barrage de Ligue Europa sera presque un bonus. Alors que du côté de l'OM, on les attend quand même un peu, on espère en tout cas qu'ils iront un peu plus loin, quoi. Donc ça va être... Ça va être compliqué, c'est sûr que voilà, c'est comme Toulouse, bon, c'est des bonus, mais l'OM, c'est pas vraiment pareil, quoi. L'OM doit aller au moins en huitième, en quart de finale, quoi. Je veux dire, l'OM en Ligue d'Europa, c'est les mêmes ambitions que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions aujourd'hui, quoi. Le Paris doit aller au moins en quart de finale de la Ligue des Champions, l'OM au moins en quart de finale de la Ligue Europa.
Très bien, Stéphane, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, hein, avec une abondante Actu Foot. On reviendra sur ces toutes dernières journées de Coupe d'Europe. Et puis, je crois qu'on connaîtra en plus les tirages au sort des matchs des huitièmes pour la Ligue des Champions. Voilà, et des matchs de barrage. Voilà.
Ok.
Merci,
allez,
Stéphane.
Bonne soirée à vous.
À très bientôt.
Bonne soirée.
Merci. Voilà. Pour donc ce point foot, on va quand même finir avec le côté catch. Vous êtes journaliste de catch. Vous avez été journaliste ou vous êtes journaliste de catch en parallèle
Je l'ai été. Je le pratique un peu moins aujourd'hui parce que je me focalise vraiment sur les entraînements de catch que je peux avoir et du coup sur sur ma progression sportive, on va dire. Mais oui, je l'ai été pendant longtemps.
Alors, c'est-à-dire journaliste de catch, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des magazines spécialisés, on participe à des émissions de radio ou de télé, s'il y en a ?
Alors, c'est spécial parce que, alors, en France, pour le coup, on ne peut pas être journaliste de catch, à part Christophe Ajus et Philippe Chéreau. C'est un peu compliqué. Moi, en France, j'ai écrit pour un site de catch qui s'appelle Vox Catch, qui était géré par un journaliste indépendant qui s'appelle Darren Fogg, qui se définit comme auto-entrepreneur plus que journaliste, du coup. Ouais. J'avais écrit quelques papiers dessus, j'avais fait quelques interviews avec des superstars de la WWE, notamment en conférence de presse téléphonique, du coup.
Oui.
Oui.
Vas-y.
Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça?
Non, c'est très bien.
Ok, super.
C'est parfait. Non, je vous fais des signes, il reste deux minutes.
Ah, ok, bon, super.
Et puis, c'est ça, la radio. Hein.
Oui, c'est vrai. Et du coup, après, par la suite, quand je suis allée au Mexique, j'ai travaillé pour une émission qui s'appelle Super Libre, qui du coup, là, était beaucoup plus... qui avait lieu toutes les semaines avec des journalistes qui ne font que ça, du coup, exclusivement, couvrir des shows de catch. J'ai couvert des shows de catch dans dans la région de Guadalajara, au Mexique. Et voilà, et du coup je faisais de la radio, de la photographie, on avait une web TV aussi qui était diffusée le mercredi, et ça m'a permis du coup de développer mon réseau. Mais en fait, je voulais surtout faire du catch pour mieux comprendre ce que c'était que le catch, pour mieux le couvrir aussi finalement, parce que le voir c'est une chose, mais être dans les rouages c'est autre chose. Et donc voilà.
Très bien, bah écoutez, merci d'être venu donc parler de votre activité sportive avec beaucoup de passion. Merci donc
merci
Sabrine, merci Salem, hein. Et puis à très bientôt, vous n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez les programmes de votre calendrier 2024. Voilà.
Avec grand plaisir.
Voilà. On a le prochain saut le 6 janvier du coup au studio Jenny.
D'accord,
pour le 20e anniversaire de l'APC, du coup.
D'accord, le rendez-vous est pris. Benoît, rendez-vous le mois prochain, donc le 15 janvier.
Hein, yes.
Bonne fin d'année.
Clairement, à tout le monde.
Voilà. Et puis, je vais saluer aussi Laura, que je retrouverai la semaine prochaine pour un autre journal des sports.
Oui, à la semaine prochaine.
On sera là. Et puis, merci à Greg d'avoir été donc aux manettes. Bonne soirée à toutes et à tous. Malik qui prend le relais dans quelques instants. Et on finit avec Gilbert Montagnier sous les sunlights des tropiques. Belle soirée à toutes et à tous sur la radio du sport. Mon Paris Sport. Salut. We'll be right back.
Saint-Denis.